voix nue. Cette semaine, Élodie Maillot rencontre Angélique Kidjo. Ce soir, rêver et partir.
Bonsoir Angélique Kidjo.
Bonsoir.
Vous êtes chanteuse, incontestablement l'une des plus grandes voix d'Afrique, couronnée de prix, de Grammy et d'invitations multiples à chanter aux quatre coins du globe. Vous êtes aussi ambassadrice de l'UNICEF, mais vous êtes peut-être avant tout une femme du monde, plutôt une femme à l'écoute du monde. Vous êtes née au Dahomey, dans le pays du Vaudou, qui est devenu le Bénin, 2 semaines après votre naissance, un 14 juillet 1960. Vous vivez aujourd'hui entre New York et Paris, entre Brooklyn et le Val-de-Marne, et vous avez étudié au collège de Pégamé, à Cotonou. Je disais que vous êtes une femme du monde parce que vous faites danser les puissants, Mandela ou Obama, un peu moins peut-être le président Trump, qui vous écoutait aux côtés d'Emmanuel Macron pour fêter l'armistice le 11 novembre 2018. On en reparlera peut-être. Mais en tout cas, vous avez côtoyé les plus grandes figures de la planète. Je le disais tout à l'heure, Barack Obama, Nelson Mandela, mais aussi Desmond Tutu, qui est votre ami. Vous dînez parfois avec Bono ou Georges Clooney, tout en restant à l'écoute de l'autre monde, de l'autre moitié du monde, à l'écoute de l'invisible et des invisibles, de ceux que l'on entend moins, et notamment peut-être des femmes, des jeunes femmes africaines, que vous aidez en leur ouvrant les portes des études et du savoir. Angélique Kidjo, Madame l'ambassadrice, vous qui voyagez sans cesse pour que l'on entende la voix de l'Afrique dans le monde, vous qui êtes une femme de parole, vous écrivez essentiellement dans les langues populaires du Bénin, le Fon et le Yoruba, mais vous parlez aussi le Mina, le Gon, le français, l'anglais, et vous chantez dans de nombreuses langues. Quelle est votre langue maternelle? La langue de l'enfance, la langue des rêves, la langue des mots d'amour, la langue que... Peut-être il y a plusieurs langues.
Il y a plusieurs langues, je dois dire. Je sais pas, ça dépend de là où je suis, mais souvent c'est toujours ma langue qui est transposée dans une autre langue en fait. Ma façon de penser, ma façon de parler, c'est souvent comme les langues de chez moi, c'est par image en fait, et par ton aussi, par proverbe aussi beaucoup. Donc j'ai grandi entourée de personnes âgées qui des fois, pour me répondre directement, parce que c'était compliqué la réponse, me donnaient toujours souvent un proverbe, et je me grattais la tête en me disant mais... Bon, mais le proverbe, comment je le comprends, comment je le mets au service de ce que je pose comme question, et ça a toujours été ce travail intellectuel de réflexion constante qui m'a amené à être la personne que je suis. J'ai grandi dans une famille de 10 enfants et mon père et ma mère ont été éduqués, ont été à l'école. Ils sont enfants uniques et ils ont voulu que leurs enfants soient éduqués aussi. Donc voilà, pour commencer à parler de mon enfance, j'ai eu ces deux parents qui nous ont protégés, qui nous ont en même temps ouverts au monde.
Et quel est votre proverbe béninois préféré alors?
L'un des proverbes qui m'a beaucoup suivi, c'est « la parole c'est comme un œuf, une fois que c'est tombé, que c'est cassé, on ne peut pas le recoller ». Donc c'est l'équivalent de, il faut tourner 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler.
Et pourtant, Angélique Kidjo, vous avez fait de votre bouche votre arme de travail, si je peux dire?
Oui, ben moi je ne suis pas quelqu'un qui garde les choses qui sont importantes pour moi. La libération de la parole a toujours été quelque chose de très très important dans la famille. Mon père disait toujours, quand on ne dit pas les choses, ça fait une bombe à retardement. Le jour ça sort, ça emporte tout.
Vous avez donc grandi dans une famille où la parole était libre, peut-être plus libre qu'ailleurs, à Cotonou?
Oui. Complètement. Mes frères avaient plein de copains qui venaient à la maison. Et des questions qu'ils ne pouvaient pas poser chez eux, on les posait à la maison.
Lesquelles?
À plein de questions sur la vie en général, des problèmes qu'ils ont avec des jeunes filles. Mon père répondait, surtout mes copines qui venaient aussi à la maison, parce que parler du sexe, c'était tabou.
Donc dans les années 70 au Bénin?
Exactement. Des fois, il y avait des discussions, mais vraiment, entre mon frère et mon père, et mon frère n'était jamais d'accord, des discussions philosophiques, mais poussées. Donc, l'éducation que mes parents nous donnaient, c'était, votre cerveau est votre âme absolue. Mais c'est cette intégrité morale qui était à la maison qui me plaisait beaucoup. Et mes deux grands-mères, pour moi, ont été vraiment, surtout ma grand-mère maternelle, pour moi, c'est elle vraiment qui m'a fait comprendre ce que c'était qu'une femme indépendante. Les deux sont devenues veuves à l'âge de 35 ans. Quand on est veuve, on épouse la personne la plus proche du mari qui est décédé. Les deux ont refusé. Quand on refuse, on se retrouve seul sans le soutien de la famille. Donc, elles se sont retrouvées commerçantes de force pour pouvoir élever leurs enfants. Donc, ma grand-mère maternelle me disait toujours, ton premier mari doit être ton travail. Il faut être indépendante financièrement. Je ne te dis pas ça pour que tu manques de respect à ton mari. C'est que quand tu es indépendante financièrement, si quelque chose arrive à ton mari, tu peux nourrir ta famille. Si ton mari perd son travail, tu peux à la maison tenir. Le début de la fin, pour elle, c'est quand on commence à demander de l'argent pour aller acheter ses sous-vêtements à son mari. Je lui dis, ah, pourquoi ? Elle me dit, mais parce que ton identité, ta dignité, elle est où ? Ta dignité, elle est où ? C'est pas ton mari qui doit t'acheter son soutien-gorge. C'est toi-même, tu l'es choisi toi-même. Et c'est parce que tu as l'argent et tu décides d'acheter un truc, pour toi, c'est pour toi d'abord. Avant que l'homme te dise que c'est joli. C'est toi qui te fais plaisir en premier. J'ai appris tous ces trucs, j'ai 6-7 ans. Et je me disais, ma grand-mère, elle est folle, elle raconte quoi là ? Mais c'est resté dans ma tête. Cette indépendance que j'ai chevillée au corps, c'est ça, parce que je sais. Elle m'a dit, je t'apprendrai plein de choses. Si un jour tu ne chantes plus, avec tes 10 doigts, tu peux te nourrir. Tu peux faire n'importe quel job.
Quel sens a la famille, du coup, pour vous ? Est-ce que c'est justement un refuge, un clan qui vous a construit, qui vous a appris, qui vous a nourri ?
Oh là là, c'est moi, la famille, pour moi, c'est la liberté. Hein, parce que mon papa disait toujours, je serai toujours un mur contre lequel vous pouvez vous reposer. Mais les décisions, je ne les prendrai jamais pour vous. Vos erreurs, vous allez les faire. Je me rappellerai toujours quand j'appelais mon père, une fois à la fin de la dictature communiste, parce que les 6 premières années, c'était impossible de leur parler, et que j'avais une décision de business à prendre par rapport à ma carrière. Je l'appelais, je lui posais des questions. Qu'est-ce qu'il me disait en premier ? Il me dit, tu veux que je te réponde par rapport à mon expérience ou tu veux que je t'aide à prendre le problème à l'envers et pour que tu trouves les solutions où tu as fait des erreurs ? Si moi, je te donne mon point de vue, tu n'apprendras jamais à régler tes problèmes. Je vais t'aider à les régler. Et la prochaine fois que ça viendra, tu auras la même méthode avant de me rappeler. Ça m'a servi de leçon énormément. Et c'est ça, moi, la famille pour moi. La famille, c'est rendre l'autre libre et fort. Et la famille pour moi aussi, c'est les amis. Je n'ai pas beaucoup d'amis. Et je sais, tu peux les compter sur les doigts d'une main. Et je sais que si j'ai besoin, l'écoute sera là et l'aide sera là.
Et Angélique Kidjo, comment est-ce que vous avez eu conscience de l'histoire de votre famille ou du récit familial ? C'est passé par
les personnes âgées, par les histoires, par les chansons. Quand on est chez nous, dans notre famille, quand c'est une fille, la cérémonie de baptême traditionnelle dure 7 jours. Et la cérémonie de baptême pour les garçons, c'est 9 jours.
Vous avez passé 7 jours ?
Avec ma maman, dans la salle des assains. C'est une salle qui est dans la maison familiale, où tous ceux qui ont existé avant moi, avant mon père, sont représentés par des petites statuettes en bronze. Si la personne est un chauffeur, la statuette va être un monsieur au volant. Si c'est un coiffeur, c'est tous les trucs. C'est comme ça qu'on l'a créé. Notre arbre généalogique, c'est comme ça qu'on l'a créé, en fait. Et c'est dans cette salle-là qu'on fait appel, justement, aux ancêtres pour guider aussi les femmes comme les hommes qui sont en train de faire cette cérémonie-là vers les bons esprits. Et quand ça tombe complètement en miettes, c'est toujours là. Ça veut dire que l'esprit de la personne existe toujours.
En fait, quand les statues se désagrègent...
Désagrègent, ça reste là. La poussière reste là.
Donc c'est une pièce avec toutes les petites représentations de vos ancêtres.
Oui. Et il y a une petite partie qui est délimitée qu'on balaye, et c'est là où on reste pour faire les cérémonies. Et c'est là, il y a une porte et une fenêtre. Donc la mère, pendant les 7 jours, on lui a rasé la tête. On lui a rasé la tête au bébé. On fait des bracelets avec des roseaux pour la tête et le bras de l'enfant, et on nourrit la mère par la fenêtre. 7 jours pour une fille et 9 jours pour les garçons.
Est-ce qu'il y a de la musique à ce moment-là ?
Est-ce que vous avez ça commence toujours par les chansons, parce que c'est les femmes, les tantes de la famille qui commencent les cérémonies. Donc, elles balaient le sol, pas avec un balai normal, mais avec des branches de palme. Tout le sable qui est devant, c'est pour unifier le sol, pour que s'il y a un esprit qui veut marcher pour aller là, ne trébuche pas. Et ça commence par le chant. Il y a un chant qui est chanté en boucle, reprise. Ça ne s'arrête pas du matin jusqu'au coucher du soleil. Dès que le soleil commence, ça recommence. Il faut qu'il y ait des voix qui reprennent au fur et à mesure. C'est en fait, tu commences et l'autre personne reprend. Et ça, c'est comme une boucle, en fait. Comme c'est un enfant qui vient de naître, qui rentre dans ce cercle de famille. Donc, on continue le cercle de famille par la chanson. Donc, Vito Takungo, Vino Takuno, Okukukui, ça comme ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand le prêtre a un truc à dire, ça continue en sourdine. Il parle, il y a une tante qui est là, qui est la voix entre le monde des vivants et le monde de ceux qui sont partis. Et pendant ce temps-là, c'est les femmes qui sont mises en valeur. Parce que c'est les femmes qui commencent les cérémonies. jusqu'à ce que l'enfant soit nommé, les pères et les hommes de la famille sont loin. Ils n'ont pas d'intervention du tout, sauf le prêtre qui interroge les ancêtres et le monde des dieux.
Quand vous dites le prêtre, c'est le prêtre...
Le babalao. C'est quelqu'un qui peut lire la géomancie, le fa. Et cette personne-là part par les figures qui parlent, qui ont des interprétations avec le monde réel et le monde irréel, arrive à vous dire qui c'est qui est l'esprit spirituel qui vient vous servir de guide pendant votre vie sur cette terre.
Donc à la naissance, pour le
bébé. À la naissance. Donc, il faut que le baptême soit fait avant la première lune, après la naissance, dans les 3 mois.
Et c'est à l'issue de cette cérémonie, Angélique Kidjo, que vous avez eu votre nom ?
Oui, que j'ai eu mon nom qui me lie à mon ancêtre, qui n'est nulle part sur mes papiers, parce que c'est un nom qui me lie à lui, donc je ne lui donne jamais celui-là. Mon nom de famille, c'est autre chose, mais le nom que j'ai acquis entre moi et mon ancêtre, c'est un nom que je ne donne pas. Donc, durant cette cérémonie qu'on s'est rendu compte que moi, j'ai un ancêtre mâle, ce qui est rarissime dans la famille pour les filles, parce que les filles sont toujours réclamées par des ancêtres femmes. Et j'ai été la première, la famille de ma famille à moi, à avoir un ancêtre titulaire mâle. Et mon père et ma mère m'ont dit, on a tout essayé pour l'écarter, il n'y a rien à faire, il ne partait pas.
Ah bon, parce qu'ils ne voulaient pas que vous ayez un parrain masculin.
Parce que cet ancêtre-là, c'est celui qu'on appelle Monsieur Juste.
Vous avez grandi comme un garçon un peu ?
Ah ouais, moi pendant longtemps j'ai cru que j'étais un garçon, j'étais tout le temps fourré partout, à courir à gauche, à droite, à suivre mes frères, des fois je les agaçais, grimper aux arbres, on avait un manguier devant la maison, je faisais n'importe quoi, on m'a dit, tiens, monté sur l'arbre, t'as mangé des mangues ? Non.
C'était pas interdit aux filles de grimper aux arbres ?
Oh ouais, mais moi je m'en fous, hein. Mon père a dit, allez, si tu peux y aller, vas-y, grimpe. Alors moi j'ai fait tout ce que mes frères ont fait, je faisais.
Donc quand est-ce que vous avez su que vous étiez une fille ? Quand est-ce que vous avez pris conscience de votre féminité ?
Mes premières règles, ça a été la fin des haricots. Ah, c'était pas bon ça. J'ai dit, mais j'ai mal au ventre. Tous les mois, j'ai pas mal au ventre. Pourquoi à partir de maintenant, je vais avoir mal au ventre ? C'était les douleurs, en fait, menstruelles qui me rendaient complètement chèvre parce que je supportais pas ça, quoi. L'idée de savoir que tous les mois, j'avais mal, c'était là. Non, je vais être garçon. Les garçons, ils ont jamais ça. Pendant que j'ai mes règles, ils sont en train de jouer au foot. Moi, je suis coincée ici.
À quoi peut rêver une petite fille qui naît dans les années 60, qui grandit dans les années 70 au Bénin ? Est-ce qu'elle peut rêver d'être chanteuse ?
Ah non, moi, quand j'étais gamine, moi, je disais à ma maman, « Maman, tu sais quoi ? Quand j'aurai 21 ans, je serai déjà mariée, je serai déjà un métier, je vais avoir 2 garçons et 2 filles. » Et maman me dit, « Ouais, et t'es le bon Dieu. » Grandir et aller en boîte avec ses frères, c'était génial quand même. Parce que j'étais tout le temps protégée, on dansait ensemble, les gens qui venaient vouloir danser avec moi demandaient à mes frères. Et je m'amusais quand même, on faisait des booms à la maison, c'était le pied total, moi qui adorais la musique, les booms, là, dès qu'il y avait un groupe nouveau ou un nouveau disque qui arrivait, c'était chez les Kidjo qu'on les jouait, et mon père et ma mère qui dansaient, c'était des moments vraiment importants dans ma vie. Moi j'écoutais tout. Il y avait un magasin de disques à Cotonou qui s'appelait Albari Castor, qui vendait les disques et qui vendait des instruments aussi. Et c'est comme ça que j'ai découvert un ampli basse, ampli guitare, l'orgue, la batterie, tout ce que mon papa avait fait un crédit pour l'acheter, tous les instruments. Mon frère a commencé à jouer à la batterie, à la guitare, à la basse, à la batterie, au clavier, au cuivre, sans avoir jamais appris. Donc moi, pour moi, c'était important d'être là, d'écouter les choses. Et ma grande sœur avait un cahier de chant et elle écrivait les chansons de Dalida, Sheila. Toute la période de yéyé dedans, et moi j'étais là. J'allais lui piquer son cahier. Je savais à peine lire, j'étais là. Ce soir, je serai. Là, je connaissais toutes les chansons.
C'était la grande époque de Salut les copains. Et ça, en Afrique de l'Ouest, on l'entendait partout.
C'était incroyable. Quand la chanson de Johnny arrivait, noir, c'est noir, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est devenu l'hystérie totale. Les pattes d'éléphant. Mais les trucs, les coiffures me démentent, quoi. C'est un truc de fou.
Et du coup, vous-même, vous êtes devenue chanteuse. Hein,
ouais, moi, je chantais tout. Je chantais Dalida. Samson et Dalida vivaient en des temps bibliques. C'est ça que je chantais avec mes frères dans la boîte de nuit de Beach Club.
Donc, vous avez commencé à chanter avec vos frères.
Exactement.
C'était moins dangereux, peut-être. Vous étiez en famille.
Ouais, c'était en famille, mais c'était en boîte de nuit où l'alcool était servi, où il y avait des prostituées. Donc, mon père me réveillait. Moi, j'étais habillée comme ça, Je me couchais doucement sur le lit pour pas froisser ma robe. Je me rappelle, c'était une robe mauve, rayée mauve, avec du mat et du brillant dans les rayures. Et c'était les week-ends souvent, et mon papa venait, tu es réveillée? Je disais oui, et je rentrais dans la voiture. Et je me collais à la vitre de la voiture, parce qu'on traversait. On prenait le même chemin pour aller à l'école, parce que l'école primaire où j'étais, c'était aussi Bégamé. Donc moi, je passais à côté de mon école, et je voyais mais la ville différemment. La rue, normalement, quand on était dans la journée, il n'y avait personne autour. Et là, on voit des marchands de viande grillée, les gens qui vendent la nourriture le soir, les camionneurs qui venaient du nord, qui avec les marchandises qui passaient par là. Et que le matin, j'allais à l'école, je racontais le lundi aux gens, je dis, oh, la mytho, comment t'as pu voir ça l'été? Les gens, à minuit, qu'est-ce que tu fais? Je ne pouvais pas leur dire que j'allais en boîte
chanter. Vous ne pouviez pas leur dire que vous alliez chanter?
En boîte, non.
Vous aviez quel âge alors?
J'avais 9 ans, 8, 9 ans, je ne pouvais pas dire ça moi. Tout le monde m'a dit, mais voilà, mytho, oh, alors elle est en boîte et tout. Donc, du coup, je disais rien.
Donc c'est votre père qui était complice?
Ah ouais, complètement, avec son pote qui était le patron de la boîte. Parce qu'il lui disait, elle chante, elle part. Tu la fais rentrer par la cuisine, elle finit de chanter, elle repart aussi. Donc mon père, il faisait la lavette. Il m'amenait, je chantais juste au moment où ils finissaient la chanson. Là, on avait la routine complète. J'arrivais, je chantais, hop, je remettais dans la voiture et on s'est parti.
Et vous vous recouchiez?
Et je me couchais, je dormais, pas tout de suite. Moi, j'étais toute excitée, je chantais la chanson dans ma tête toute la nuit. Quoi.
Et du coup, vous aviez l'impression d'être une petite fille un peu différente des autres?
Non, pour moi, je vois ça comme un amusement. Je me disais, c'est bien. Parce que personne au Bénin ne me prenait au sérieux. C'est ça aussi l'avantage d'être célèbre tôt. Parce que... Mais les gens s'en fichent complètement. Tu vas voir la grosse tête où? Ceux qui viennent te voir en concert, c'est ceux-là même qui sont à l'école avec toi. Mon père te dira tout de suite, mais va, si tu veux jouer à la star ici, t'as qu'à aller trouver ta maison. Allez, dégage ici. Mes pires critiques que j'ai jamais eues, personne ne peut être aussi dur que ma famille. Mais c'était tout le temps des critiques. Mon père, à un moment donné, a dit, ok, tu ne nous crois pas, on va commencer à filmer tes concerts. Alors, il filmait mes concerts, Super 8. Une semaine après, il me dit, bon, maintenant, t'as une semaine d'euphorie, ouais, la star, j'ai chanté, t'es à plein de monde qui était là. Maintenant, on va parler pas, boulot. Et alors, dis donc, c'était dur. Hein. Eh bien, cette tenue-là, en fin de compte, t'es pas belle. Hein. Tu vois, regarde. C'est quoi ça? Tu ressembles à quoi? Moi, je trouve ça bien. Non, c'est pas bien. Cette coiffure, non, c'est pas bien. Là, t'as dégamé. Ça dit, t'as chanté fou. Mon frère Oscar, c'était le pire de tous. Et il dit, mais cette chanson-là, soit tu changes la tonalité, soit tu la chantes plus, parce que ça casse les oreilles. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'améliorer, à être moi-même. Ma pire critique, en fait. Quand le truc n'allait pas, il n'y a rien à faire. Tu peux me dire que c'est bien, j'ai dit que tu chantes, mais il dit non, je ne fais pas.
Et aujourd'hui encore?
Ah, toujours.
Et alors, vous avez commencé à jouer au Beach Club, dans ces clubs de Cotonou, petit à petit, jusqu'à enregistrer un disque?
Ouais. J'ai enregistré un disque en 80 ou 81, je ne me rappelle plus trop, avec Ekambi Brillant, qui était une méga star du Cameroun et qui à ce moment-là sortait avec une chanteuse célèbre du Bénin, Stella Stella. Et il est venu voir un de mes concerts et mon papa lui a demandé s'il pouvait produire mon disque. Il a dit oui et c'est comme ça que l'aventure a commencé.
Le disque s'appelait Pretty?
Pretty.
Vous vous souvenez de la pochette? On vous voit dessus?
Oh oui, j'avais encore des cheveux en ce moment-là. J'ai coupé mes cheveux en 85 quand j'arrivais en France. Les cheveux, non, je ne pouvais plus. Quand tu es étudiante, tu choisis soit manger, payer tes cours, ou soit faire les cheveux.
Aller chez le coiffeur, c'était trop cher.
Ouais, c'est trop cher. Et c'est trop long, ça prend trop de temps. Donc...
Et quand vous regardez cette pochette et ce regard de jeune fille, donc avant de découvrir
le
monde...
La photo de la pochette a été faite par mon frère, Alfred.
Et la robe?
Ma maman.
Vous étiez innocente à l'époque encore
quand
vous...
Oui, oh là là, moi j'étais dans un autre monde. Moi j'étais... La chanson m'occupait vraiment. La chanson faisait partie de moi complètement. Pour moi, c'était... surtout avec la dictature communiste, c'était mon... La chanson était pour moi mon îlot de paix, en fait. Parce que cette parole libre qu'on avait à la maison, quand la dictature communiste est arrivée, a été arrêtée. Parce qu'on commence dans la dictature communiste, qu'est-ce qui se passe?
En 72?
En 72, la dictature communiste, qu'est-ce qu'elle fait? Elle détruit le tissu familial. C'est-à-dire, la paranoïa qui s'installe est faite de telle sorte que tu ne puisses plus faire confiance à ta famille. Il fallait appeler son père camarade, sa maman camarade, et on ne savait pas qui était qui. C'est-à-dire qu'on est dans une parano totale, Même votre famille proche, quand elle arrive à la maison, tout ce que vous savez, vous commencez une phrase, vous taisez. Tu sais pas si ton téléphone est sur écoute. Les voisins avec lesquels tu as grandi toute ta vie, tu ne fais plus confiance à personne. C'est un sentiment déstabilisant que je ne souhaite à personne.
Surtout quand on vit dans une famille où on venait danser.
Exactement, où on faisait les fêtes, tout ça s'est arrêté, tout d'un coup. Parce que c'était interdit de jouer autre chose que de la musique de propagande. Les Jonas Pedro, les Rupoli Ritmo, ils ont écrit des chansons sur la révolution. Moi, j'en ai écrit aucune. J'ai refusé.
C'est-à-dire qu'ils acceptaient de chanter pour le pouvoir.
De faire la musique, pas forcément pour le pouvoir. Pour pouvoir vivre, ils étaient obligés de chanter les chansons de la propagande politique. Mmh. Pas au palais, mais les conseils qui faisaient la plupart de leurs chansons, c'était comme ça. Parce que c'était la seule façon de faire de la musique. Ils n'avaient pas le choix. Moi, j'ai eu le choix parce que quand mon disque est sorti, ça a eu du succès. Dénivé, le premier single, est devenu un tube. Et j'ai commencé à aller travailler en Côte d'Ivoire, au Cameroun. Je suis sortie du pays, en fait. Donc, la même mise du gouvernement sur moi est venue beaucoup plus tard où je n'ai pas pu avoir. Il a fallu que je chante pour la réunion de la CEDEAO, qui est les États de l'Afrique de l'Ouest, devant tous les chefs d'État. Ça a été le dernier concert que j'ai fait. Ça m'a dégoûtée de la musique, complètement, parce qu'on est en face d'être de personnes qui ont l'âge de vos pères, qui sont des dirigeants de pays, qui vous regardent comme si vous étiez un bout de viande sur un étal. Des vieux libidineux. C'est à se sentir, mais vraiment sale quand on chante devant des gens comme ça. Aucune considération pour les artistes. Ce qu'on faisait, ils étaient là à bavarder, à boire. C'était un mépris total pour le peuple. Et ça ne m'étonne pas qu'au jour d'aujourd'hui, les peuples africains soient toujours méprisés par les dirigeants parce qu'ils ne pensent pas que leur peuple, c'est ça qui leur donne le pouvoir. Ils pensent que c'est eux qui ont le pouvoir, pas le peuple. Mon père, mes parents étaient là invités. Ils m'ont vu bouillir. Ils me connaissent bien. Et ils priaient tous les deux que je dise rien. Que je ne parle pas, surtout. Je n'ai rien dit. Je suis rentrée dans ma chambre, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, je ne veux pas rester ici. Donc à partir de cet instant-là, il nous a fallu une année pour préparer mon départ de Cotonou.
Comment concrètement vous avez quitté le Bénin, Angélique Kidjo?
Ce qui s'est passé, c'est que mes parents, avant qu'ils ne puissent me faire partir, il faut savoir quel est le point de chute. Mon frère Yves était parti, lui, du Togo, parce qu'il a fini ses études à l'université au Togo. Parce que quand la dictature communiste est arrivée, la première chose qu'ils ont détruite, c'est l'éducation, la bonne éducation du Bénin. Le Bénin était considéré comme le quartier latin de l'Afrique. Nos profs étaient sublimissimes. C'est moi, j'ai eu des profs absolument incroyables, qui... En maths, en toutes les matières, c'était vraiment des pointures. Et le Bénin, les Béninois étaient envoyés un peu partout dans toutes les universités en Afrique. Et la dictature communiste arrive. Le président qui est au pouvoir n'a pas fini le primaire. Pour l'éducation, ce n'est pas une priorité. Donc, ils ont commencé à détruire l'éducation. Et moi, j'ai décidé qu'il fallait que je parte. Donc, mon frère qui était parti du Togo, mes parents étaient en contact avec... Je sais pas, ils avaient des codes pour se parler. Ils lui ont dit que moi, je devais partir. Mon frère a dit, laissez-la partir parce qu'elle reste là-bas, elle n'aura pas de carrière, elle n'aura pas de futur. Donc, il faut l'envoyer. Moi, je suis là, je la récupère. Maintenant, il faut trouver l'argent. Il faut trouver le moment et ne pas demander, surtout pas demander une autorisation de sortie au pouvoir. Si vous demandez une autorisation de sortie, il y a une date de retour dedans. Si vous ne revenez pas, c'est votre famille qui est prise en otage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais une cousine qui se mariait et qui a choisi mes parents comme témoins. Elle ne savait pas que je devais partir. C'est bien après qu'elle a su. Au dernier moment, je crois le jour du mariage, mes parents l'ont prévenu. En lui disant que le repas qu'ils allaient faire à la maison, parce que leur maison était tout à côté de l'aéroport, c'est après le repas, parce que je prenais le vol qui part toujours de Cotonou à 23h55, de Air France. Qui part.
Encore aujourd'hui.
Encore aujourd'hui. Mon père a rentré sa voiture dans le garage. On a mis mes valises dedans. J'ai mis ma tenue pour la soirée. On a fait de telle sorte que tout le monde savait que mes parents étaient témoins de ce mariage-là et que le soir, il y avait un dîner auquel on était invité.
Donc, vous pouviez partir tranquillement.
Donc, je pouvais partir. Donc, j'ai mis ma robe pour la soirée, qui est une robe blanche avec des sequins sur la poitrine, sans bretelles. Et j'ai pris un sac en plastique où j'ai mis ma tenue pour voyager dedans. Donc, avant qu'on ne sorte la voiture, la maison était ouverte. Donc, mon père m'a pris la photo et tout le monde voyait. Les voisins ont vu que j'étais bien habillée pour aller à cette fête. Je me faisais compliment parce que tout le monde devait savoir que j'allais à cette fête-là. Et quand l'heure est arrivée, ma cousine qui se mariait m'a dit « On te souhaite bon courage, bonne chance. » Et j'arrive, j'ai prié tous les deux. Mon père m'a déposé loin. Il n'y avait pas de lumière. Il avait éteint ses phares. Il m'a dit, je ne peux pas t'amener plus loin. Avec les larmes aux yeux, mon père est parti. Il a fait demi-tour avec la voiture. Et j'ai traîné ma valise dans le noir jusqu'au comptoir Air France. J'ai enregistré mon bagage. Je me suis dit, mon bagage, si je le perds, ce n'est pas grave. Si je finis en prison, ça ne me servira plus à rien. J'ai eu un pot dingue. Et il s'avère que c'était un des potes de mes frères qui aimait faire la musique avec eux. Qui était douanier, qui était là. 20 secondes avant, son collègue était là. Il venait juste de tourner le coin pour aller aux toilettes. Et il m'a vu. Il a su ce que je voulais faire. Il a eu une peur, m'a dit. Fuis. Cours. Ne t'arrête même pas. Va. Et je suis partie. Mais j'ai couru. J'ai couru. Je crois que j'ai couru plus vite que Usain Bolt. Avec mon petit sac là, en plastique, avec mon passeport dedans. Je n'avais pas de sac à main. J'ai couru comme des ratés. Je suis rentrée dans l'avion. Quand je suis arrivée à l'avion, j'étais là. Pourvu qu'on commence par contrôler pas mon passeport. J'étais là, je n'arrivais pas à respirer. Et je me suis enfouie sous le siège. Tellement je me suis recroquevillée là. Pour pas que quelqu'un me voie. Je suis restée au moins 2-3 heures ankylosée comme ça. Et après, je me suis dit, je vais regarder. On était en l'air. Et les gens qui m'ont regardé dans l'avion, c'était trop tard pour prévenir qui que ce soit. J'étais plus dans le sud du territoire béninois. On était dans l'air déjà. Je suis arrivée le 11 septembre 1983 à Charles de Gaulle 1.
Merci Angélique Kidjo. Demain, nous poursuivrons avec vous votre histoire et nous évoquerons votre arrivée en France et votre renaissance ou vos renaissances. À demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Élodie Maillot avec Angélique Kidjo. À voix nue, réalisation Anaël Brouard, prise de son Élise Leu, coordination Sandrine Trainer, attachée de production Daphné Abgral. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.